journal Yves Decamp. Bonjour Yves.
Bonjour. Mettre un terme à cette situation après l'acte 18 des Gilets jaunes et le saccage des Champs-Élysées par des casseurs, les riverains et commerçants, la ville de Paris et l'opposition de droite interpellent le gouvernement. Le président de la République a demandé des décisions fortes. Le Premier ministre convoque à Matignon demain une réunion de crise. Pour les syndicats de police, il faut revoir la stratégie du maintien de l'ordre. Pour aller au-delà des textes et des discours au lendemain de la marche pour le climat qui a réuni 45 000 manifestants à Paris, les défenseurs de l'environnement demandent là aussi des décisions fortes, ce que nous dira dans un instant le climatologue Jean Jouzel. Dans ce journal également, l'hommage des Néo-Zélandais aux victimes de Christchurch, Brendan Tarrant, 50 personnes assassinées dans deux mosquées de la ville par l'extrémiste australien. La lutte contre le racisme et l'antisémitisme, un an après les mesures annoncées par le gouvernement pour l'éducation ou la régulation d'Internet, où en est-on? C'est le droit de suite de ce dimanche 13h, dont l'invité sera le délégué interministériel Frédéric Potier. Et puis une dernière chance de bien figurer pour les Français au championnat du monde de biathlon, la Mass Start. Départ des filles dans un instant. Des incendies, des pillages, des jets de pavés sur les forces de l'ordre, et c'est un nouveau spectacle de désolation qu'ont découvert ce dimanche riverains et promeneurs sur les Champs-Élysées. Plusieurs semaines qu'on n'avait pas vu ça, mais le 18e samedi de manifestation des Gilets jaunes a donc été marqué par un retour des violences à Paris, où 237 personnes ont été interpellées, 200 placées en garde à vue, dont parmi elles 15 mineurs. Jamais les Champs-Élysées n'avaient été vandalisés à ce point, et jamais on était passé aussi près du drame. Après l'incendie d'une agence bancaire, 11 résidents des étages supérieurs ont été légèrement blessés, et surtout une femme et son bébé évacués de justesse par les policiers. Alors ce matin, c'était sur place un mélange de colère, d'indignation et d'incompréhension, Yann Galli.
Et les dégâts sont encore visibles sur l'avenue des Champs-Élysées, même si les agents de la ville de Paris ont travaillé toute la nuit pour nettoyer les lieux. Badauds et touristes prennent en photo les vitrines brisées, les carcasses de scooters calcinées, les kiosques à journaux brûlés. Avec un attroupement devant le Fouquet, des ouvriers sont à pied d'œuvre depuis ce matin. Ils installent une grande bâche sur la terrasse de la célèbre brasserie qui a été saccagée par des casseurs. Gérard, habitant de Paris, n'avait jamais vu ça sur les Champs-Élysées.
C'est incroyable, c'est du jamais vu quoi. Sentiment de désolation, d'exaspération de voir ça, et surtout de voir qu'on est arrivé à cette situation. Je pense qu'on aurait pu l'éviter à tout niveau, au niveau force de l'ordre, au niveau mesures adéquates à prendre au préalable et pas d'avoir à constater les dégâts après coup. Je trouve ça déplorable.
Exaspération également chez les commerçants. Michel est la gérante d'un kiosque qui a été incendié. Elle est venue constater les dégâts. Il faudra au moins 3 mois, dit-elle, avant de se faire rembourser par les assurances.
Détruire le travail des autres, c'est lamentable. Et j'étais de tout cœur au début avec les gilets jaunes, mais là je ne partage plus, là, c'est plus possible. Parce que les nombres de personnes qui vont être au chômage technique, qui sont travailleurs, qui gagnent que le SMIC aussi, hein, c'est pas des gros salaires, hein. Il y a eu des failles par rapport aux gilets jaunes. Les gilets jaunes savaient qu'il y avait des black blocs ou des choses comme ça. C'était à eux de voir qu'il fallait un service d'ordre. Je suis désolée, ils ont laissé faire, ils ont regardé.
Et selon un bilan du comité des Champs-Élysées qui regroupe les commerçants de l'avenue, une cinquantaine de magasins ont été vandalisés hier.
Un peu plus de 32 000 manifestants dans toute la France, selon les chiffres du ministère. 10 000 à Paris, où la marche du climat rassemblait au même moment 45 000 personnes. On va y revenir. Le chef de l'État, qui s'accordait un week-end de détente au ski dans les Pyrénées, est rentré dardard à Paris, demandant au gouvernement des décisions fortes pour que cela n'advienne plus. Pour le Premier ministre, venu saluer les forces de l'ordre en soirée, tous ceux qui excusent ou encouragent de tels actes sont complices. Mais c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. Pour Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes, c'est même à se demander si l'inaction du pouvoir n'est pas voulue.
Depuis 18 semaines, le gouvernement est totalement incapable de restaurer l'ordre républicain. Cela n'est plus acceptable, cela n'est plus supportable, et cela pose en effet des questions. Quelles sont les réelles motivations du gouvernement? Est-ce qu'il ne se nourrit pas finalement de cette situation qui entretient l'idée qu'a nourri le président de la République depuis plusieurs semaines? C'est moi ou le chaos? Eh bien nous refusons le chaos et nous demandons au gouvernement d'agir, d'enfin assumer leur mission, d'enfin protéger les Français. La question est d'interpeller et d'éviter la présence des casseurs. Le mouvement aujourd'hui des Gilets jaunes n'a absolument plus rien à voir avec ce qui s'est passé au début. Ce n'est même plus le mouvement des Gilets jaunes. Aujourd'hui, à Paris en tout cas hier après-midi, c'est un simple prétexte à regrouper des casseurs.
Un mouvement dévoyé par les casseurs, selon Éric Ciotti, d'accord sur ce point avec le Premier ministre. Et de fait, beaucoup de Gilets jaunes se sont dit consternés par le spectacle, sans pour autant appeler à arrêter les frais. Et c'est bien ce que craignent les forces de l'ordre, qui semblaient d'ailleurs moins présentes hier qu'à l'accoutumée. Problème de moyens et de stratégie pour le patron du syndicat des commissaires, David Lebars, au micro de Jean-Philippe Degnaud.
Le changement de stratégie du maintien de l'ordre, c'est une évidence. Le problème, c'est qu'on est toujours dans une crise urgente qui nécessite une adaptation des forces de l'ordre face à des nouvelles formes de menaces. Et le changement de doctrine, ça doit être un sujet de réflexion, un sujet de fond. Ça nécessite des moyens, ça nécessite des changements de pratiques, sans doute même la prise de texte, ou en tout cas l'adaptation de certains textes pour pouvoir faire face. Mais là, il va falloir à nouveau faire face à une crise qui a repris de l'envergure. De toute façon, les forces de sécurité, hein, police, gendarmerie, ne sont pas extensibles. Il y a un moment où il faut admettre le fait qu'on n'est plus sur un problème de moyens humains, mais sur un problème d'organisation, de stratégie. Malheureusement, il y a un effet contagion, hein, il faut être lucide. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ça va donner des idées à ceux qui pensaient que peut-être le mouvement s'essoufflait. Ça va sans doute faire des émules. Ça va à nouveau nécessiter une forte mobilisation au niveau des forces de l'ordre. Je crois que malheureusement, il faut s'attendre au pire pour les prochains samedis.
D'autant plus d'inquiétude que de nouveaux Black Blocs ont fait leur apparition à l'occasion de cet acte 18, dont certains seraient venus en renfort de l'étranger, selon quelques témoignages. Alors, qui sont les casseurs? C'est un dossier à consulter sur franceinter.fr. Et pendant ce temps, ils étaient 45 000 à manifester dans le calme pour la marche du siècle, pour réclamer un véritable engagement des pouvoirs publics contre le réchauffement climatique, sans négliger nullement le mouvement des Gilets jaunes. Au contraire, la fin du monde et les fins de mois, c'est le même combat. Et c'est le slogan de cette marche du siècle dans laquelle les jeunes étaient très nombreux. Ce dont se félicite notamment le climatologue Jean Jouzel, pour qui dans ce domaine, les déclarations d'intention, c'est bien. Les actes, c'est mieux. Il l'a dit au téléphone de Matteo Mestracci.
Il y a des choses qui sont faites, je le reconnais quand même, mais pas suffisamment, me semble-t-il, par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. Cette division par deux qu'il faudrait respecter d'ici 2030 sera très difficile, même la diminution de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Sur les autres points, il y a aussi beaucoup d'autres problèmes liés à la perte de biodiversité, disons la pollution, tout cela, eh bien, c'est au cœur de notre vie. Et bien sûr, ce devrait être une des priorités du gouvernement, sinon la priorité, parce qu'elle est aussi, je crois, au cœur de notre développement, de notre dynamisme économique. Et cela, nous avons du mal, finalement, à faire ce pas. Il n'y a pas, par exemple, pour le moment, au niveau de l'Europe, une véritable dynamique autour de l'environnement que la France pourrait porter. Ce serait aussi un magnifique projet européen que de réussir cette transition écologique au sens large. Il y va, je crois, du bien-être de nos concitoyens, de chacun d'entre nous, au cours des prochaines décennies, et en premier lieu des jeunes qui étaient très présents hier à la marche du siècle.
Jean Jouzel qui participera demain avec une soixantaine d'intellectuels à une rencontre à l'Élysée avec Emmanuel Macron dans le cadre du grand débat. À l'ordre du jour, l'environnement et le climat, mais aussi le mouvement des Gilets jaunes. Et à propos d'environnement, les plages de Gironde ne sont pas polluées par des nappes d'hydrocarbures issues du Grande America, annonce de la préfecture de Gironde ce matin. Les reconnaissances ont révélé des souillures, mais elles proviennent de déchets organiques et non d'une pollution hydrocarbure, comme certains l'affirment sur les réseaux sociaux. Ne pas se fier aux photos alarmistes, précise la préfecture. La surveillance, évidemment, continue. À Christchurch, en Nouvelle-Zélande, deux jours après le carnage des mosquées, dont le bilan s'est encore aggravé à 50 morts, l'émotion reste intacte. Les témoignages se multiplient de ceux qui réalisent avoir échappé au massacre par miracle. La famille de l'assassin Brendan Tarrant, extrémiste australien gagné par le fascisme, se dit brisée, assurant ne pas avoir vu qu'il avait à ce point changé. Lui-même, ex-instructeur de fitness, âgé de 28 ans, est resté impassible à l'annonce de son inculpation. Dans la liste de ses victimes, publiée ce dimanche, des fidèles musulmans de tous âges, de 3 à 77 ans, auxquels l'ensemble des Néo-Zélandais ont rendu hommage, avant que de partout, de nombreux bénévoles musulmans viennent apporter leur aide. Karine Hutton à Christchurch.
À quelques mètres de l'hôpital, le hall de l'université de Hooghly, où ont été réunis ceux qui ont échappé aux tueurs et les familles des victimes, est interdit à la presse. Mais il bourdonne de bénévoles musulmans. musulmans qui ont afflué de tout le pays. Mehdi Chaudhreri est un Bangladais d'Auckland au nord. Il est venu à la demande de sa communauté pour la soutenir psychologiquement.
Ils sont sous le choc, ils n'arrivent pas à manger, ils n'arrivent pas à bien dormir. J'en connais certains qui s'endorment et se réveillent au bout de 15 minutes. Ils se rappellent du sang. Il y en a beaucoup qui étaient dans les mosquées. Ils ont eu de la chance, ils ont réussi à s'échapper par une porte ou par une fenêtre. Ils ont vraiment besoin d'un soutien moral.
Kai Bardost est l'un des 30 Afghans venus en renfort d'Auckland. Il explique que la communauté est surtout très anxieuse à propos de quand les corps des défunts allaient pouvoir être remis à leur famille.
Selon nos coutumes religieuses, nous devons enterrer nos morts le plus vite possible. Et c'est vraiment une situation difficile pour certains, surtout que ce n'est jamais arrivé jusqu'ici en Nouvelle-Zélande, que la police scientifique doive rendre les corps rapidement. Si elle décide de ne pas faire d'autopsie, alors elle pourra commencer à les restituer.
Effectivement, l'attente devrait toucher à sa fin. La chef du gouvernement a annoncé que les premières dépouilles allaient être retournées à partir de ce soir et les autres régulièrement jusque mercredi. À Christchurch, Karine Auton, France Inter.
Le journal de 13h sur France Inter.
C'était il y a un an l'annonce par Édouard Philippe d'un plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. 21 mesures sur 3 ans pour faciliter notamment le dépôt de plaintes, mais aussi sensibiliser les jeunes à travers l'organisation de rendez-vous comme cette semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme qui s'ouvrira demain. Mais la priorité des priorités, c'est surtout la lutte contre toute forme de haine sur Internet. Le chantier est en cours, c'est le droit de suite de ce journal Thibault Lefebvre.
Les policiers de la plateforme de signalement en ligne Pharos sont désormais beaucoup plus nombreux derrière leurs écrans et ils sont mécaniquement plus efficaces. Une centaine de contenus ont été repérés et signalés en un an. Ils ont permis notamment la suspension du compte Twitter de l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol ou la suppression de la page Facebook de l'association Génération Identitaire. C'est bien, mais peut beaucoup mieux faire. C'est l'avis de Dominique Sopo. Il est président de l'association SOS Racisme.
C'est insuffisant pour une raison très simple. C'est que, par exemple, il est extrêmement compliqué aujourd'hui, au regard du cadre législatif, de pouvoir réagir lorsqu'il y a des sites qui sont basés à l'étranger. Donc il y a un cadre législatif à revoir pour faire en sorte que ce ne soit pas simplement un effet transitoire parce que les hébergeurs seraient sous les feux de l'actualité avant de retourner vers des pratiques qui ne sont pas admissibles.
Alors le gouvernement accélère avec une proposition de loi qui se veut dissuasive. La députée LREM Laetitia Avia a présenté le texte en début de semaine.
C'est pas parce qu'une entreprise est à l'étranger que lorsqu'elle a des activités en France, elle ne répond pas de la loi française. Et si elle ne répond pas de ses obligations, eh bien dans ce cas-là, on engage des procédures et ces entreprises ne peuvent plus exercer en France. Pour Facebook, ce sera une sanction qui peut aller jusqu'au 1 milliard d'euros. Je peux vous dire que c'est assez contraignant, oui.
Le projet de loi devrait être voté en mai prochain, puis appliqué avant la fin de l'année. Quant au plan, il sera évalué dans 6 mois par une autorité indépendante, la Commission nationale consultative des droits de l'homme.
Invité de ce droit de suite, Frédéric Potier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Bonjour.
Bonjour.
Alors, évaluation du plan sera faite plus tard. Mais d'ores et déjà, quel bilan peut-on en tirer? On n'a pas l'impression que la haine est vraiment reculée sur Internet.
Non, la haine ne recule pas parce qu'elle se déploie par différents vecteurs, mais ce qui est important, c'est la mobilisation. Mobilisation de l'État, mobilisation des associations, mobilisation aussi au Parlement, avec cette proposition de loi qui a été déposée par Laetitia Avia, sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs mois, parce que oui, il y a effectivement beaucoup de progrès encore à accomplir.
Mais ce projet de loi affiche de bonnes intentions, hein, puisqu'il s'agit d'attaquer les sites exerçant leurs activités en France, mais c'est pas un vœu pieux? Ça fait longtemps qu'on le dit, hein.
Non, pas du tout. Ça a été fait en Allemagne et nous importons cette loi qui a été appliquée en Allemagne. Les sanctions sont très fortes, 4% du chiffre d'affaires, avec des délais de retrait de contenus légaux très réduits, 24 heures, 48 heures, avec des obligations de transparence beaucoup plus fortes pour les géants de l'Internet. Je crois qu'il y a là beaucoup d'outils qui permettront de faire reculer demain la haine lorsque cette loi sera votée.
Alors, quand on voit encore ce matin les difficultés de Wikipédia, dont un collaborateur rajoute systématiquement les origines juives dans le portrait des personnalités de Wikipédia, c'est beaucoup plus complexe qu'on croit.
Bien sûr, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de recette miracle. Par contre, il y a un certain nombre de combats à mener. Des combats en matière de législation, législation, il y a aussi des combats en termes de formation. Nous intervenons, nous, à la DILCRA, dans toutes les écoles de police, de gendarmerie, à l'école nationale de la magistrature, justement pour former les enquêteurs, former les hauts fonctionnaires à ce qui est la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Donc oui, le chantier est immense, mais nous y travaillons évidemment.
Et puis il y a cette semaine donc d'éducation et d'action qui commencera demain dans les établissements scolaires. Bon, elle existe depuis plusieurs années, ça ne change pas grand-chose.
Plusieurs années, mais c'est une semaine nationale qui a été relancée il y a 3 ans. Et c'est cette année plus de 500 événements dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées. Ce sont des interventions d'associations. Je serai moi-même demain dans le collège, dans un collège 14e arrondissement de Paris. C'est parfois des actions menées avec des journalistes. C'est parfois des lancements d'observatoires, de recherches universitaires. Donc c'est quelque chose de massif, de quelque chose de national. Et c'est vraiment le temps fort annuel de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme en France.
Alors le projet du gouvernement, Il y a un an, prévoyait aussi des équipes nationales d'intervention rapide pour venir en aide aux enseignants confrontés à des situations de conflit. Où en est-on ?
Ça a été lancé avec Jean-Michel Blanquer il y a quelques semaines. C'est opérationnel depuis le mois de janvier. Et l'idée, elle est très simple, c'est pas laisser les enseignants seuls avec ces difficultés. C'est pouvoir, lorsqu'il y a un cas de harcèlement, raciste ou antisémite, pouvoir mieux détecter, signaler et traiter. Et considérer que l'exfiltration de l'enfant n'est pas une solution en soi.
Alors on fait quoi ?
Est-ce qu'il faut, c'est renvoyer de l'aide, apporter des ressources, apporter des éducateurs dans la classe, dans l'établissement. Ça pourra être des associations, parfois des interventions de grands témoins ou des lieux de mémoire comme le mémorial de la Shoah ou le musée national de l'immigration. Mais simplement ne pas laisser ces problèmes-là sous le tapis comme on a pu un peu trop le faire ces dernières années.
De la même façon, là, une formation des acteurs du sport a été prévue pour les problématiques racistes et antisémites, notamment dans les stades. Là aussi, comment intervenir ?
Oui, énorme chantier, le racisme dans le football en particulier qui sévit. Nous travaillons notamment avec Lilian Thuram, avec Johan Lemaire, avec une association qui s'appelle Sportitude, pour là encore sensibiliser les supporters sur ce que sont par exemple des chants. Parfois il y a des chants à caractère raciste mais aussi homophobe. C'est pas neutre, il ne faut pas banaliser ces propos, pas banaliser ces chants, il faut pouvoir les contenir. Et donc nous travaillons avec la fédération, avec la ligue, avec les clubs de supporters pour pouvoir lutter contre tout ça.
Et donc à suivre ce projet de loi qui devrait être présenté avant la fin de la saison. Merci beaucoup Frédéric Potier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Allez, des costumes d'opéra aux enchères à Toulouse. 700 costumes des années 70 à 2000, mis à prix jusqu'à ce soir de 80 à 200 €. Ils avaient été faits sur mesure pour les artistes et danseurs du théâtre du Capitole. Et c'est donc l'occasion pour les collectionneurs de se faire plaisir, Stéphane Iglesis.
Tout doit disparaître car il faut faire de la place. C'est l'occasion pour le Théâtre du Capitole de faire le tri dans ses costumes. Le 3e opéra français en profite pour injecter les sommes récoltées dans des actions pédagogiques. Claire Rosereau de Melun, administratrice de l'opéra et de l'orchestre du Capitole.
Il y a la question de la place. Hein. Notre stock aujourd'hui, c'est 16 000 costumes environ. Et nous confectionnons en permanence de nouveaux costumes. Donc on a besoin, à certains moments, de créer de l'espace dans nos stocks. Après, c'est aussi un prétexte pour ouvrir notre maison à d'autres publics. Voilà, élargir un peu la rencontre et permettre à des compagnies de théâtre, à des collectionneurs, à des amateurs, d'avoir chez eux des pièces de nos ateliers.
3 robes de flamenco en coton, ainsi que 5 robes de flamenco en soie noire. Adjugé à 120 pour madame.
Julie a acheté pour une somme modique des robes de flamenco pour elle et son association.
C'est une école de danse associative. Je suis très contente. Je vais derrière certainement garder une pour moi.
15 costumes du Moyen-Âge. Adjugé à 1200.
Quant à Anne-Marie, elle a cassé la tirelire pour offrir du rêve à son association de kung-fu.
Mais c'est vrai que ce sont de beaux objets, il y a un savoir-faire et ils ont une histoire et c'est ça qui m'a ému.
Ce soir, tout aura disparu pour des sommes modiques, sachant qu'un costume d'opéra coûte en moyenne 1 500 € par pièce à fabriquer. Toulouse, Stéphanie Glaisis, France Inter.
Une belle affaire donc. En sport, les rendez-vous de ce dimanche. Ce soir, le Classico de Ligue 1, PSG-OM au Parc des Princes, sans grand enjeu en vérité. Tellement les Parisiens dominent le championnat, les Marseillais ne les ont plus battus depuis novembre 2011. Dans le tournoi des 6 nations féminins, françaises et italiennes se disputent tout à l'heure à Padoue la 2e place. Les Anglaises ont réussi le grand chelem, comme les Gallois chez les hommes. Et puis, c'est la dernière chance de se rattraper pour les Français au championnat du monde de biathlon en Suède. Des Français en difficulté sur la neige d'Östersund depuis la baisse de régime de leur leader Martin Fourcade, hors de forme. 2 médailles de bronze pour les garçons, 1 pour les filles. Le bilan de ces championnats est plutôt maigre. Fanny Lechevestrier reste donc la masse start dont le top départ vient d'être donné pour la course des filles avec seulement 2 Françaises engagées.
Oui, et c'est finalement assez symptomatique hein, des ternes résultats de cette équipe de France féminine, puisque le forfait de dernière minute est celui d'Anaïs Chevalier, la meilleure française cette année en Coupe du Monde et qui est arrivée complètement en méforme sur ces championnats du monde. Elle met fin à sa saison, c'est ce qu'elle a annoncé en fin de matinée. Alors il reste dans cette mastart qui vient de prendre d'être donnée, Célia Aymonier, mais on l'a vu hier, elle est fragile sur le tir. Et puis, vous l'avez dit, il y a l'imprévisible Justine Brezaz, la Savoyarde de 22 ans, qui nous a expliqué hier avoir juste envie de se faire plaisir. Et si cela sourit, tant mieux. Si cela ne sourit pas, tant pis, c'est ce qu'elle a déclaré. Mais Justine Brezaz, l'arbre qui ne cache pas la forêt, tant elle est dense, a toutefois déjà jugé sévèrement le patron hein, du biathlon français, Stéphane Boutiot. C'est dire qu'il va y avoir du travail, quoi qu'il arrive sur cette mastart à l'issue de ces championnats du monde, pour reconstruire une équipe féminine.
Voilà, à suivre donc la mastart féminine en ce moment même. Et les garçons, ce sera tout à l'heure à 16h.